Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'intérêt d'un traitement conservateur pour les calculs biliaires symptomatiques non compliqués ?
Et comment comprendre le désarroi des étudiants en médecine face aux symptômes médicalement inexpliqués ?
Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons le professeur Jean-Paul Sculier et le docteur Gilles Enrard, collaborateurs de Minerva, pour décrypter ensemble ces études. Une occasion précieuse de questionner vos pratiques à la lumière des dernières données scientifiques, avec rigueur et esprit critique.
Bienvenue sur la plateforme de podcast de Minerva, où chaque épisode est l'occasion de décortiquer et de discuter des analyses de pratiques médicales sous l'angle de l'EBM. Je suis Élie Chapelier.
Je suis Justine Colson et nous sommes ravis de vous accueillir depuis les locaux de l'Université de Liège pour ce nouvel épisode où nous explorerons ensemble des enjeux cliniques concrets qui touchent directement à votre pratique quotidienne.
Nous avons également le plaisir d'accueillir le docteur Maxence Wafik. Bonjour docteur.
Bonjour madame Chapelier.
Vous êtes médecin généraliste au centre de Liège. Vous n'êtes pas rédacteur pour Minerva, mais nous comptons aujourd'hui sur votre regard critique, pratique, et sur votre expérience pour challenger nos analystes du jour.
Installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer ces sujets sous un angle scientifique, précis et éclairant. Bonne écoute.
Bonjour docteur Enrard.
Bonjour Zélie.
Vous êtes rédacteur pour Minerva, chargé de cours au département de médecine générale de l'Université de Liège et médecin généraliste urbain. Bienvenue parmi nous.
Merci.
Nous accueillons également le professeur Sculier. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes également rédacteur pour la revue Minerva, mais vous êtes surtout spécialiste du cancer du poumon. C'est bien cela ?
C'est ça.
Nous commençons notre discussion avec une étude que vous avez analysée portant sur l'efficacité et la rentabilité d'une prise en charge conservatrice pour prévenir les symptômes et complications chez les adultes ayant des calculs biliaires symptomatiques non compliqués. Rien qu'en lisant le titre de l'analyse, on devine déjà des enjeux économiques importants derrière cette étude. Professeur, qu'en pensez-vous ?
Alors, l'étude est une étude randomisée qui a comparé une approche conservatrice, hein, donc pas de chirurgie, contre un abord chirurgical, cholécystectomie. Et l'évaluation est une évaluation qui a été faite par des questionnaires, donc c'est une évaluation patient ici. Et ils ont pris un questionnaire de qualité de vie et ils ont pris la douleur somatique, qu'ils appellent corporelle, là, dans l'article, à 18 mois. Et donc ils ont randomisé 400 patients, dont techniquement, l'étude est bien faite en termes de méthodologie. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'abord chirurgical et l'abord conservateur. Et ils disent qu'il y a un bénéfice économique dans le système de santé britannique en faveur de l'approche conservatrice. Alors, le problème de cette étude, c'est que l'évaluation économique, ils disent, ça fera l'objet d'un autre article qui n'est pas encore paru. Donc ça s'appelle du saucissonnage de publication, hein, pour en faire plusieurs. Mais donc, vous restez un peu sur votre faim parce que vous ne savez pas comment ça a été évalué.
Hein. Il faut bien que les docteurs en vivent, M. Sculier. Hein. Il faut faire des doctorats.
Les académiques en vivent.
Les académiques vivent des doctorats.
Pas le généraliste de base. Hein.
Dans votre analyse, vous soulignez que les résultats sont difficiles à appliquer à la population belge. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Ça, c'est fort intéressant. Donc, ils ont randomisé des patients dans le système de santé britannique. Et donc, c'est d'évaluer l'effet sur la douleur à 18 mois. Alors, quand on prend les patients qui ont été opérés, ils n'ont pas tous été opérés dans le bras cholécystectomie. Et à 2 ans, il y a encore 60 patients qui n'ont pas été opérés, dont 20% parce qu'ils sont toujours sur des listes d'attente du système catastrophique de l'Angleterre à l'heure actuelle. Et donc ça, c'est évidemment pas du tout applicable chez nous. Donc ça, c'est un vrai problème. Et alors l'autre chose aussi, c'est quand on a opéré les gens dans le bras conservateur, on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est les questionnaires des malades, hein, difficile d'aller leur demander quel problème médical ils ont vraiment eu, raison pour laquelle on les a opérés. Et aussi un autre problème méthodologique, c'est que 25% à peu près des questionnaires à 18 mois n'ont pas été rentrés. Quand vous avez comme ça 25% d'inévaluables, votre étude, elle a un peu du plomb dans l'aile.
Bien vu.
Quand je me suis lancé dans les études randomisées, on considérait qu'une étude qui avait plus de 5% d'inéligibles et 10% d'inévaluables, c'était une étude pour la poubelle.
Quand vous avez fait cette lecture critique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
Le système catastrophique que nos amis anglais vivent en termes de santé. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Et donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est que chez nous, pour faire une étude comme ça, vous devez passer par un comité d'éthique. Mais une des fonctions du comité d'éthique est de s'assurer que la manœuvre est faisable. Donc la manœuvre, c'est quoi ? C'est la cholécystectomie. Et si le patient il doit attendre plus de 2 ans avant d'avoir cette cholécystectomie, que vous voulez évaluer l'effet à 18 mois, mais votre étude est infaisable. Chez nous, ça ne passerait pas.
Docteur Enrard, docteur Wafik, je me tourne vers vous. Est-ce que vous appliquez ou appliqueriez les recommandations de cette étude dans votre pratique quotidienne ?
Non, cette étude, elle est parfaitement inapplicable au contexte belge. Et effectivement, comme disait le professeur Sculier, c'est terrifiant de se dire que 20% des patients ont dû attendre 2 ans pour une cholécystectomie. C'est pas quelque chose qu'on voit en Belgique. Et mais du coup, ça signifie aussi que l'étude, c'est difficile de comprendre ce qu'elle évalue réellement. Parce que c'est une étude qui est faite en intention de traiter. Donc c'est qu'on prend les gens dans le groupe auquel ils ont été assignés, peu importe le traitement qu'ils ont eu finalement. Et là, il y a 25% des non-chirurgicaux qui sont opérés. Et aussi un nombre important qui ne sont pas opérés dans l'autre groupe, je crois 37% qui n'ont pas été opérés de mémoire. Et donc finalement, la question de recherche n'est pas la supériorité de l'approche conservatrice versus chirurgicale. Alors la question de recherche, ça devrait plutôt être, est-ce qu'il y a un bénéfice à être sur liste d'attente plutôt que de ne pas être sur liste d'attente pour un patient ? Et ça, ce n'est pas très intéressant comme question de recherche. Donc non, je pense que pour le contexte belge, il n'y a pas grand-chose à en sauver, même si j'aime bien le côté pragmatique de l'étude. Et je pense qu'en médecine générale, on bénéficierait de plus d'études pragmatiques parce que le gros problème des études randomisées classiques, c'est qu'elles ont une validité externe qui est très faible. C'est-à-dire que c'est des patients qui n'ont pas de comorbidité, qui prennent leurs médicaments religieusement tous les jours. Voilà, si vous avez des patients comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais fondamentalement, c'est peu applicable. Et là, c'est très bien d'avoir une étude pragmatique, mais elle est plus à montrer les failles du système anglais qu'à pouvoir être extrapolée dans un contexte belge.
Professeur, vous souhaitez rebondir ?
Oui, non. Je vais dans le même sens, c'est très pragmatique, mais si vous travaillez dans le système anglais, avec tous les problèmes qu'ils ont, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas se battre pour faire une cholécystectomie dans les situations de lithias non compliquées, par la voie principale, où il n'y a pas eu de cholécystite et d'autres choses comme ça.
Alors, pour conclure cet épisode, nous abordons une dernière étude sur un tout autre sujet. Elle porte sur les symptômes non expliqués médicalement et le désarroi des étudiants en médecine en formation. Docteur Enrard, c'est vous qui avez proposé cette étude. Pourquoi l'avoir choisie en particulier ?
Alors, parce que je vois passer ces étudiants dans ma pratique en tant que superviseur et je pense que les résultats de cette étude, elles s'adressent principalement aux médecins généralistes que nous sommes sur le terrain en tant que modèle de rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces étudiants et leur désarroi qui est évident, qui est palpable au quotidien ? C'était une manière d'honorer cette parole que de le faire de manière scientifique au travers de méthodologies qualitatives et aussi par la bande de souligner que ces méthodologies qualitatives sont le parent pauvre de la démarche BM et c'était l'occasion de leur mettre un petit coup de projecteur.
Donc si je comprends bien, il y aurait un intérêt à développer davantage de méthodes plus mixtes.
Oui, mixtes en plus, donc qualitatives certainement, hein, parce que bon, non seulement c'est parfois des méthodologies qui sont plus accessibles à des départements, à des équipes de recherche plus petites. Bon, je vous rappelle qu'une RCT bien menée, c'est 1,5 million d'euros sur 2 ans, enfin, c'est pas rien. Alors les méthodologies qualitatives, il faut de l'intelligence, il faut du temps, mais ça peut se faire sans beaucoup de logistique. Par contre, il y a des critères de scientificité, il y a des critères donc, de lecture critique propres aux méthodologies qualitatives. On en parle très peu dans Minerva et donc moi je serais d'avis qu'on en fasse plus parce qu'en plus, ça permet de répondre à des questions de recherche spécifiques auxquelles les RCT ne peuvent pas répondre. La question du sens, du pourquoi, c'est des études qui sont souvent aussi, qui peuvent être, quand elles sont bien faites, génératrices d'hypothèses, qui s'inscrivent dans un courant qui est lui-même minoritaire au sein de la médecine, c'est la médecine narrative, donc la médecine qui donne de l'importance aux mots, aux histoires que racontent les gens, et donc qui s'intéresse à l'hypersingulier plutôt qu'à des effets moyens.
Et donc, ce que vous venez de citer serait un apport concret pour la pratique de terrain. Il y en aurait d'autres.
Ah oui. Quand j'ai relu cette étude pour préparer le podcast, ça m'a fait dire, 5 ans plus tard, parce qu'elle date déjà un petit peu ici, je suis au département de médecine générale, il faut qu'on fasse quelque chose. Et j'ai l'idée d'une modalité pédagogique pour enseigner à nos futurs médecins la manière de bien vivre, de bien réagir face à des symptômes non expliqués médicalement, au travers de patients simulés, etc. etc. C'est ce qu'on attend des études, hein, c'est qu'elles aient un impact. Et celle-ci, elle a plusieurs forces, je pense. D'abord, dire qu'elle est publiée dans le BMJ Open. C'est le petit frère du BMJ et ça note une certaine hiérarchie. Le but suprême, c'est d'être publié dans les Big Five, etc. Et ces Big Five et ces journaux, ils ont fait des BMJ minuscules ou des BMJ petits frères, que sont le JAMA Open, le BMJ Open, dans lequel on a une chance peut-être de publier du qualitatif. Donc ça dénote une hiérarchie comme ça dans le statut d'épreuve. Donc cette étude en particulier, la méthodologie choisie, c'est des interviews individuelles, semi-structurées. Hein, ça aurait pu être des focus group, etc. Donc au sein des méthodes qualitatives, il y a bien sûr des modalités. Ici, c'est des interviews semi-structurées. Et elle est rudement bien faite. Ça veut dire que les auteurs décrivent excessivement bien leur intervention, le public qu'ils interrogent, ce qui aide à la transposabilité des résultats. Par exemple, il y a toutes des méthodes de triangulation qu'ils décrivent, quand ils les ont faites, quand ils ne les ont pas faites. C'est aussi une des rares études qualitatives que je lis qui décrit correctement les biais possiblement induits par le caractère situé des chercheurs. Donc, je suis chercheur, j'ai telle profession, j'ai tel présupposé idéologique, moi, je m'attends à trouver tel résultat, je le mets sur la table. Ça va aider mes collègues à challenger mes présupposés dans la manière dont j'interprète les données qualitatives. Et donc, ils décrivent qu'ils ont fait tout ça. Donc, c'est un vrai travail de rigueur. Il me semble que c'est une excellente revue qualitative en termes de rigueur. Et les résultats m'aident en tant que médecin généraliste accueillant des stagiaires et formant les futurs généralistes.
Elle paraît effectivement présenter beaucoup d'avantages, mais ses limites à cette étude en soi, est-ce que vous pourriez les esquisser ?
Oui, donc principalement, je pense que les auteurs disent on a fait des triangulations, l'équipe était pluridisciplinaire, donc on avait différentes professions autour de la table qui ont tous réfléchi aux données qualitatives, mais il n'y a pas eu d'autres niveaux de triangulation. Donc, des triangulations de sources, on va chercher des sources à différents endroits, des triangulations de méthodes d'analyse. Ils ont une méthode d'analyse qu'ils décrivent, mais ils auraient pu coupler l'analyse à d'autres méthodes. Donc la triangulation est un tout petit peu faible, mais ils le disent eux-mêmes et ça s'est explicite.
Plus largement, qu'est-ce que cette étude peut nous apprendre sur la formation et la supervision de nos futurs étudiants ?
Je pense qu'on le savait déjà de manière intuitive, mais c'est confirmé de manière scientifique. Nos étudiants sont extrêmement désemparés face à ces situations de symptômes médicaux non expliqués médicalement. Ils sont là, ils sont là massivement. En préambule de l'étude, les auteurs rappellent qu'il y a 40 à 50% des contacts en soins primaires qui sont de cet acabit. Donc c'est massif et c'est extrêmement peu enseigné à l'UNIF. Les cours de communication qui débarquent à l'UNIF pour la soin nous apprennent à annoncer des mauvaises nouvelles, par exemple. Mais jamais on nous a appris à annoncer des résultats normaux. Et puis, ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que les gens s'attendaient à ce qu'on leur raconte une histoire qui fait sens, etc. 40 à 50% de nos consultations, nos étudiants n'y sont pas préparés. Et les étudiants nous donnent des conseils et ils nous disent « faites attention à votre modèle de rôle ». Ils nous disent « nous, on est parfois dédaigneux ». Ils nous disent « parfois, moi, je prescris des examens et donc je sais que je fais de la surmédicalisation, du surdiagnostic, du surtraitement ». Parce que j'utilise l'examen pour aller plus vite dans ma consultation et pour ne pas devoir communiquer, parce que je ne sais pas comment le faire. Il nous rappelle que ne pas enseigner des attitudes adéquates dans ces situations est un risque de surmédicalisation.
Docteur Wafik, vous voulez réagir à cette étude ?
Que c'est un sujet extrêmement important. Et oui, ça fait partie de la pratique clinique quotidienne d'avoir des symptômes qui sont médicalement inexpliqués. Je pense que ce que ça montre, c'est l'intolérance de l'incertitude qu'on retrouve dans la profession médicale au sens large et à tous les niveaux d'expertise et d'expérience dans la profession. Je pense qu'il y a une manière de penser qui est enseignée en médecine qui est très axée sur la recherche de preuves, la recherche d'évidence, la recherche d'informations et qui fait que quand on se retrouve face à rien, on ne sait plus comment réagir. Et je pense que c'est tout le cadre épistémique qu'il faut revoir. Je pense qu'il y a un lien entre notre manière de concevoir le monde, l'information et le savoir médical qui induit à la fois cette intolérance à l'incertitude. Je pense qu'on a un rapport aux connaissances, un rapport au réel et un rapport au savoir qui nous rend très vulnérables face à l'incertitude, au doute et finalement qui empathie. Je pense qu'il y a une souffrance des médecins, mais c'est les patients qui vont souffrir d'errance médicale, de surmédicalisation, de surdiagnostic, de surtraitement.
Mais j'allais justement y venir. Derrière le désarroi des étudiants, il y a aussi la souffrance des patients et des patientes. Comment est-ce que vous pourriez esquisser une plus-value de ce type de recherche, mais pour les patients ?
Répéter ces études qualitatives auprès de patients, ça serait le premier pas à faire, par exemple.
Vous en voyez d'autres ?
peut-être qu'il faut reconnaître que dans l'EBM, dans la démarche EBM, il y a quelque chose qui met en avant la certitude, enfin, qui essaie d'éclairer la certitude. Ça regarde droit dans les yeux la certitude et il faut reconnaître que c'est déstabilisant. Pour nos étudiants aussi. Moi, il y a des moments, mes assistants, je ne vais pas trop les chercher avec l'EBM parce que je sais que ce n'est pas le moment. Ils sont en insécurité. Je leur donne des guidelines, des recommandations. Mais la vraie EBM, celle qui regarde sous le capot, qui se dit « mais attention, c'est plus ou moins sûr, attention, on peut gagner, mais on peut perdre. » Enfin, tous ces trucs qui mettent du doute, j'y vais mollo. Donc ce genre d'étude nous fait réfléchir à la manière dont on fait de l'EBM. Il faut qu'elle soit raisonnable, qu'elle ne mette pas les gens dans un trop grand inconfort. Et pour ce qui est de cette incertitude, pourquoi est-ce qu'elle est douloureuse? C'est parce que derrière, on ne sait pas quoi faire avec. Et donc, si on donnait des outils simples aux futurs professionnels pour donner des techniques de coping avec les gens qui ont mal depuis longtemps et on ne sait pas pourquoi, etc., si on leur rendait leur sentiment de compétence dans ces domaines-là, ils accepteraient mieux la certitude.
Docteur Scullier, est-ce que vous voulez réagir à ces échanges?
Mais je voudrais quand même rappeler que la médecine factuelle repose sur un trépied. Le premier, c'est le médecin, avec son expérience, sa propre formation. Le deuxième pilier, c'est les connaissances de la littérature qu'on classe par niveau de preuve, qui a été rendue beaucoup plus facile grâce à l'arrivée d'Internet, hein, qui permet de pouvoir avoir l'information très facilement. On peut télécharger les articles, ce n'était pas comme ça dans les années 70. Et le troisième pilier, c'est le patient. C'est les choix du patient, ses désirs, ses demandes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression qu'actuellement, la dérive, c'est que on s'axe trop sur le deuxième pilier, qu'on oublie l'expérience, la pratique du médecin et les souhaits du patient. Quand vous prenez les écrits tout à fait initiaux, c'était les trois piliers et ça doit rester les trois piliers.
Oui, il faut se rappeler le contexte dans lequel a émergé l'EBM dans le monde anglo-saxon. Donc il y avait un mouvement tout à fait salvateur d'émancipation vis-à-vis d'une certaine tradition-based médecine, le chef de service, le mandarin qui avait toujours raison, etc. Et des jeunes motivés, des jeunes loups qui ont dit, maintenant, regardez, moi j'ai une étude et on peut en discuter. Les revues scientifiques ont pu jouer ce rôle, faire sortir de son piédestal la médecine basée sur la tradition et surtout sur l'autorité des chefs de service, etc. Donc il y a eu ce côté émancipateur et puis on ne s'est peut-être pas arrêté suffisamment tôt ou on n'a peut-être pas mis suffisamment d'énergie dans les autres trépieds. Et à l'heure actuelle, on peut peut-être arrêter avec les preuves scientifiques, on est bon, là on a suffisamment d'éléments pour bien les utiliser et porter un peu d'attention aux deux autres trépieds. Donc revaloriser l'expérience, le savoir expérientiel, et évidemment donner plus de place à ce grand oublié qu'est le patient.
L'origine de la pratique de la revue systématique et donc de la médecine factuelle, elle est née au Canada. C'est un travail qu'ils ont fait publier fin des années 70 sur la médecine préventive, que ce soit des tests, des vaccins, des mesures hygiéniques, etc. Et donc, ils ont vu toute la littérature manuellement pour répondre à toute une série de questions et ils ont répondu par niveau de preuve, le meilleur étant la bonne étude randomisée, le moins bon, l'avis d'expert. Et ils ont fait des recommandations par grade. Tout y est. Mais la motivation, c'était de ne rembourser que ce qui était démontré. L'origine, elle est économique dans le système de santé canadien.
C'est un des courants qui a toujours coïnsisté. On peut rappeler qu'à Minerva, on défend un courant de l'EBM qui est émancipateur, qui tient à amener la force que peuvent représenter les données scientifiques sur le terrain, dans les cabinets de consultation, chez les travailleurs de terrain.
Et docteur Wafik, vous voulez réagir à ce qui vient de se dire ici?
Je pense effectivement que le pilier patient est un pilier qu'il faut essayer de valoriser au maximum. Je pense que c'est aussi une des dérives du niveau de preuve à un certain niveau, c'est de chercher la preuve parfaite qui répondra le plus à la question. Et si la réponse n'est pas adaptée au patient, c'est peut-être le patient qui est dans le tort et pas la réponse que je propose. Et ça, je trouve que c'est une vraie difficulté. Genre, quand on arrive avec le meilleur traitement et que le patient dit « j'ai un effet indésirable qui fait que je ne peux pas le prendre » ou quoi que ce soit, il y a vite un étiquetage patient contrarié, patient pénible, plutôt que remettre en question un petit peu qu'est-ce que c'est l'adéquation d'un traitement et quels sont les critères de valeur, comment on prend des décisions conjointement. Et je pense que oui, remettre le patient et l'expérience, et même le savoir expérientiel des patients au sein de ces questions-là est important, d'autant plus dans des sujets sous-étudiés avec un faible niveau de preuve, c'est-à-dire tout ce qui va être symptômes médicalement non expliqués. C'est un champ de recherche qui n'est pas non plus celui où on a le plus de certitudes, sinon il ne serait pas médicalement inexpliqué. Et donc c'est là où l'expérience aussi, et du praticien et du patient, doivent être vraiment incorporées dans la décision.
Quand on a des symptômes inexpliqués, il ne faut pas oublier qu'il faut étudier ça. Hein, que c'est parce qu'on ne sait pas expliquer le symptôme que le patient n'a rien et que c'est purement psychologique. Mm-hmm. Je vais raconter une anecdote. Quand j'étais étudiant en médecine, donc on est fin des années 70, j'ai suivi une formation de médecine psychosomatique, hein, où un psychiatre nous expliquait que l'ulcère à l'estomac, c'était dû à l'arrivée de la déclaration fiscale au printemps. Et donc, les gens se stressaient. 10 ans plus tard, quand on sait que c'est dû à Helicobacter, que c'est une maladie infectieuse, il faut étudier les choses. Donc, si on ne sait pas, il ne faut pas dire que le patient n'a rien, mais il faut étudier et puis on découvrira des choses. La recherche a une place importante.
Merci beaucoup pour ces échanges.
Voilà, nous arrivons déjà au terme de ce deuxième épisode. Un grand merci à nos 3 invités du jour, le docteur Wafik, le docteur Enrard et le professeur Sculier, pour la richesse de leur éclairage. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et restez connectés à la plateforme de podcast de Minerva, où chaque épisode explore la pratique médicale à la lumière de l'EBM. À très bientôt !